Un coup de projecteur sur la pédagogie féministe en recevant Audrey Chenu, qui est enseignante, pédagogue féministe, on pourrait dire, mais aussi avec plein d'autres casquettes, pour parler ce matin dans les studios de Radio Royan de cette approche. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Peut-être pour que nos auditeurs et nos auditrices sachent exactement de quoi on parle, qu'est-ce qu'on entend par pédagogie féministe ?
Bonne question. Pédagogie, donc tout le monde connaît. Je pense l'idée de la pédagogie féministe, c'est qu'en fait, j'ai commencé à enseigner donc il y a 16 ans et j'avais 26 ans à l'époque et je découvrais, enfin j'étais impliquée dans pas mal de collectifs de féministes radicales et lesbiennes et plein d'autres combinaisons possibles. En tout cas, il y avait beaucoup de, comme il y a beaucoup de femmes dans l'éducation, il y avait beaucoup de féministes dans l'éducation, et en fait, on se rendait compte que dans nos gestes professionnels ou dans nos postures, on n'avait pas forcément, on n'arrivait pas forcément à intégrer le féminisme. Et donc, c'est en se posant la question avec quelques collègues. Donc, il y avait une collègue de SECPA, il y avait une autre qui était animatrice, des éducatrices, tout ça. Et on se posait voilà ces questions et on a décidé ensemble en fait d'y réfléchir au début avec un atelier à Paris voilà quelques on devait être 5 ou 6 quoi et puis assez vite on s'est dit mais en fait on connaît pas mal de personnes en France qui se posent ces questions et qui sont dans le champ éducatif. Donc on va organiser une rencontre. Donc la première rencontre a eu lieu en 2012 au Vignol local de la CNT à Paris et voilà on devait être entre 15 et 20. Et voilà, et après, bah, ça, depuis 2012, ça a continué jusqu'en 2019, avec des rencontres qui étaient des échanges de pratiques, en fait, sur une semaine, sur différents thèmes. Et voilà, il se trouve que cette année, j'ai pu enfin publier, avec mon ancienne directrice d'école, avec qui on a travaillé 9 ans, à Bobigny, dans une école primaire. L'ouvrage Entrée en pédagogie féministe chez Libertalia.
Donc cet ouvrage paru cette année avec Véronique Decker, ta directrice. Comment vous est venue cette idée? De quoi vous avez envie de parler dans ce livre toutes les deux?
Alors, donc faut savoir, moi j'avais, quand je suis arrivée là-bas, j'avais déjà 3 ans d'enseignement et elle 30. Donc et pareil, c'est quelqu'une qui avait, enfin qui a connu le MLF, qui a été dans des combats et tout ça. Mais dans son école, voilà, il y avait pas tant de choses mises en place par rapport au sexisme, à l'homophobie, à tous ces fléaux qui conduisent au harcèlement scolaire, n'est-ce pas, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a plein d'autres problèmes. Et en fait, moi, je l'ai un petit peu bousculé quand je suis arrivée dans l'école. Et il y avait quelques collègues qui avaient envie aussi de s'atteler au problème. Donc ça a commencé par en fait, il y a dans la pédagogie freinée, il y a ce qu'on appelle les conseils d'enfants. Donc, c'est des moments où les enfants ont la parole libre pour parler des conflits ou des projets de classe, voilà. Et souvent, ce qui revenait de la part des filles, notamment, c'était il y en a marre, les garçons nous passent jamais la balle à la récré. Et donc, on est parti de là et on s'est réunis et finalement, ça a abouti à ce que j'organise des ateliers de foot pour les filles. Et je sais pas si vous voyez les cours d'école en général, la moyenne c'est qu'il y a une fille qui joue sur une vingtaine de garçons quoi, parce qu'elle a réussi à faire sa place, parce qu'elle joue hyper bien, parce que son frère, parce que je sais pas quoi. Et puis les autres elles sont dans des coins en périphérie de la cour de récréation.
Elles jouent à l'élastique ou elles jouent à la marelle, elles discutent, elles sont sur les bordures quoi.
Voilà. Et donc là, quand j'ai commencé à proposer ces ateliers, j'avais 40 gamines inscrites à mes ateliers. Donc vous voyez quoi, la différence. En fait, elles ont envie de jouer au foot, comme voilà, elles adorent ça. Mais juste quand on leur passe pas la balle et qu'on se moque d'elles et que voilà, ça donne pas trop envie quoi. Et en fait, elles sont éclatées, elles ont adoré ça. Et donc juste en une année quoi, on a constaté. Et après, comment elles prenaient leur place dans la cour de récré, dans les récrés habituels, bah c'était différent. Au niveau du corps, comment elles s'affirmaient, comment elles, voilà, il y avait beaucoup moins d'effacement, d'évitement de leur part. Donc c'est que des petites expériences comme ça que je raconte dans ce bouquin qui est un abécédaire. Donc voilà, avec des entrées et qui est accessible aux parents, aux enseignantes, éduques et tous les gens que ça concerne de près ou de loin. Moi, j'écris un peu comme je parle, donc l'idée, c'était pas un ouvrage universitaire ou un truc didactique pour les enseignants, enseignantes. Il y a des livres qui existent sur le sujet, notamment « Enseigner égalité filles-garçons » par Gaëlle Pasquier ou des choses comme ça. Ce qui était important pour moi aussi, en publiant chez Libertalia, j'avais un peu... c'est eux qui m'avaient sollicité au départ, en fait, parce qu'ils savaient que j'organisais ces rencontres et que je participais et tout ça. Et j'ai aussi été donc dans des lieux plutôt institutionnels, comme le rectorat de Créteil, où il y avait ce qu'on appelle une mission égalité filles-garçons. Et l'idée, c'était de travailler sur ces questions, parce que ça pose des problèmes à l'école, hein, et à l'éducation nationale. Et donc voilà, il y avait des commissions de réflexion et tout et tout. Et assez vite, j'ai été évincée parce que j'étais trop militante. Et là, c'était important pour moi de pas parler d'égalité filles-garçons ou de lutte antisexiste et tout ça, mais de pédagogie féministe.
Et la notion et la nuance est importante, parce que quand on reprend le problème un peu à la base, à la racine, de manière radicale, c'est que on voit que les phénomènes de harcèlement, de mauvaise estime d'elle-même, d'effacement, comme tu disais, viennent de ces phénomènes de sexisme, et puis on peut le lier aussi à la question de l'homophobie, mais en tout cas à la misogynie, et ça vient de la part des élèves, mais aussi des postures des professionnels de l'éducation, des enseignants, enseignantes, et plein de choses qui sont faites de manière inconsciente par ces professionnels, d'où l'importance de se former et de pas forcément parler de pédagogie antisexiste, mais plutôt féministe. Et pourquoi cette nuance est importante pour toi ?
Ouais, déjà parce que c'est quelque chose de positif, quoi, de pas être toujours dans le anti, le contre et tout ça. C'est non, pour moi, le féminisme, il propose vraiment un projet de société, en fait, égalitaire et voilà, plus riche pour tout le monde, à mon avis. Mais c'est encore un peu un gros mot, quoi. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, t'as eu du courage de mettre ce mot-là. Mais en fait, à un moment, ouais, les mots sont importants, comme on a dit, et voilà. Après, il y en a qui sont réfractaires, qui voient ce mot et peut-être qu'ils vont pas le lire, mais bon, tant pis, hein. J'ai envie de dire, voilà, faut appeler achat, achat.
Et parce que si t'avais mis pédagogie égalitaire, c'était pas assez juste pour toi ?
Non. Je pense que, ouais, pour moi, c'est important. Voilà, il y a trop de gens qui disent, ah non, je suis pas féministe, je suis humaniste, je sais pas quoi. Ouais, je suis féministe, j'assume. Et c'est ce qui me porte aussi à je porte des projets en tout cas et une vision qui s'inscrivent dans ce champ-là et dans tout ce qu'on m'a transmis, puisque c'est aussi que ce soit dans la littérature, dans l'éducation, il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée et donc c'est une façon de partager les savoirs. Ce que disait Elsa Dorlin à un moment donné, c'est que à partir de nos expérimentations, on va produire des savoirs et des théories féministes, et c'est ça qui m'intéressait. Et donc dans ce livre, je fais un peu le va-et-vient entre l'expérience et ce qu'on en retire, quoi, et ce qu'on peut après peut-être partager dans d'autres écoles ou dans d'autres endroits.
Et puis c'est important de rappeler que d'un point de vue politique, il y a eu une maigre tentative, les ABCD de l'égalité, c'était en 2012 il me semble,
2013,
manif pour tous. Pendant les débats sur la manif pour tous, qui est un projet qui était déjà très faible en termes de ce qu'on peut revendiquer quand on veut parler d'égalité. Et pourtant, même ça, c'est pas passé. Ça veut dire que dans l'institution éducation nationale, dans l'institution scolaire, ces questions-là mettent vraiment du temps à percer, quoi.
Ouais, au final, c'est pas passé parce que, d'une part, il y avait donc ce mouvement Manif pour tous, très réactionnaire et tout ça, et il y avait eu, par exemple, ce qu'on a appelé la journée de retrait, où c'était l'époque Farida Belghoul, voilà, qui disait qu'on allait apprendre aux gamins de 3 ans à se masturber, enfin, il y a eu tous ces amalgames et tout, donc les parents ont retiré les enfants de l'école ce jour-là, quoi, pour protester, contre l'éducation égalitaire, en tout cas, ce qui en était montré par l'État à ce moment-là. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants, enseignantes, en fait, qui disaient qu'ils voulaient pas entrer là-dedans parce que la peur un peu de l'effraction, d'entrer dans l'intimité des familles, en fait, ou de voilà, et d'être dans une morale ou dans quelque chose de républicain, enfin, c'est assez complexe, ces questions. Moi, ce que je dis, c'est que t'es pas obligé de rentrer dans l'intimité des familles quand on fait des activités, que ce soit souvent l'entrée la plus facile, et c'est ce qu'il y avait dans les ABCD de l'égalité, c'était la littérature jeunesse. Et en fait, quand tu lis un album aux enfants, et juste tu constates avec eux combien il y a de personnages masculins, féminins, et comment ils se représentaient symboliquement, etc., et discuter avec eux ce qu'ils en pensent, souvent ça part de là, quoi. Et vous trouvez ça normal, vous trouvez ça cool, ah ben non, j'aimerais bien que la fille elle puisse faire ci, elle puisse faire ça, enfin voilà, c'est toujours du débat, de l'échange avec les enfants sans leur imposer un discours ou une morale, parce qu'ils sont pas bêtes de toute façon. Du coup, moi je parle avec des ados souvent que j'ai en atelier d'écriture ou autre. Et ils savent que voilà, ils ont des espèces de discours sur l'égalité filles-garçons qu'ils savent très bien ressortir en fait quand il faut, mais pour autant ils n'ont pas bougé sur ces questions-là. Donc c'est pour ça que moi je dis c'est au quotidien, c'est dans une approche transversale en fait. Donc il peut y avoir l'activité de lecture là où on va discuter un peu des stéréotypes par exemple. Mais à longueur de journée, à la fois dans le partage des responsabilités de la classe, parce que la division sexuée du travail, ça commence là, en fait, quand c'est tout le temps les gamines qui ramassent les papiers par terre et puis les garçons qui sont en train de jouer, bah ça va pas. Donc voilà, chacun, chacune a des responsabilités, ça tourne. Et notamment, il y a des garçons qui sont réfractaires au début, genre moi je fais pas le ménage, y a pas moyen, c'est elle qui fait ça, chez moi c'est ma mère, chez moi c'est ma sœur, bah voilà. Et du coup, bah moi je leur apprends petit à petit que pour faire partie de la classe, il faudra participer à tout, et que c'est comme ça, je pose le cadre, et ouais, des fois ça passe par là. Des projets au niveau du sport aussi, donc ça m'arrive de faire des ateliers en non mixité comme je l'ai dit auparavant, parce qu'à un moment sinon ça neutralise, quoi. Les filles elles osent rien faire parce que les garçons vont avec leur corps en fait leur imposer des contacts physiques non désirés. Ça fait qu'on va parler aussi du consentement par exemple dès le CP, on en parle quand quelqu'un veut faire un bisou et que l'enfant n'a pas envie, comment il ou elle fait pour affirmer son refus. Enfin voilà, c'est hyper varié et divers, je pourrais en parler des heures.
Parce qu'il s'agit en fait, par rapport à ce qu'on disait de cette posture plus institutionnelle sur la question de l'égalité filles-garçons, là dans la pédagogie féministe, il y a quelque chose de beaucoup plus proactif peut-être, et du bricolage finalement dans la posture, dans le quotidien. Et peut-être on peut donner effectivement des exemples comme tu viens de le faire sur la question du consentement, toucher ou non son corps, prendre de la place, prendre la parole, et puis aussi donner l'exemple, c'est-à-dire que ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, comme je le disais avant, beaucoup de professionnels n'ont pas idée qui sont malgré eux en train de, elles et eux, en train de véhiculer des stéréotypes sexistes. Dans comment ils parlent, dans comment ils donnent, par exemple, des énoncés aux élèves. Et souvent, c'est difficile de faire prendre conscience de ça aux adultes. Comment ça s'est passé avec les équipes que tu as traversées dans ta carrière, que tu as rencontrées, pour dire, mais en fait, tu as un discours peut-être d'égalité, mais dans les faits, tu es encore en train de renforcer des stéréotypes?
Ça a été beaucoup de prises de bec. Je me rappelle notamment d'une collègue avec qui j'étais un peu en conflit parce que, je sais plus, on avait partagé nos salles à un moment donné où j'avais fait les devoirs à sa classe et les gamins devaient apprendre la conjugaison avec seulement je, tu, il, nous, vous, il. Et donc déjà ça pose question qu'après ils sauront pas conjuguer le genre féminin ou le on, etc. Et puis puisque la pensée se construit par le langage, pour moi un langage non sexiste, pour le coup c'est inclusif, on peut l'appeler de plein de façons, mais en tout cas avoir cette conscience là et faire attention à ça. Et elle me disait mais on s'en fout de ça, il y a d'autres combats plus importants, vas-y, on a toujours pas les mêmes salaires, enfin voilà, avec d'autres arguments. Et je disais mais je vois pas du tout en quoi c'est incompatible en fait. Pour moi, faut travailler sur tous les fronts. Voilà, et donc ça a été long et tout, et au bout d'un moment, elle constatait elle-même que bah, les gamines, on est en quartier populaire, donc à Bobigny. Quand elles parlent, elles vont dire « ouais, frère, ouais, gros », enfin voilà, elles vont tout mettre au masculin tout le temps, en fait. Elles savent même pas le dire au féminin, donc à un moment donné, elle m'a dit « ah, c'est vrai que c'est quand même... peut-être qu'il y a quelque chose à faire, quoi, là-dessus, pour qu'elles puissent parler d'elles et des autres, avec les bons mots et tout ça, les pronoms, les accords, enfin... » Donc voilà, des choses comme ça. Après, une autre collègue aussi, bah voyons, on arrive dans le préau pour une activité de chant ou je sais plus, artistique. Et là, donc il fallait déplacer des bancs. Et puis du coup, la collègue, elle dit, bah les garçons, allez-y, déplacez les bancs. Du coup, moi j'arrive, je dis, mais les filles, elles ont pas de bras ou c'est comment? Et voilà, c'est vraiment plein de petites choses comme ça au quotidien. Et c'est vrai que moi, j'ai mes lunettes féministes, je les mets tout le temps, donc...
Et du coup, ça peut aussi donner l'information, comme je le disais, que malgré nous, de manière inconsciente, en disant les garçons portaient les bancs, même si l'intention, elle n'est pas de faire quelque chose de sexiste, eh ben ça se passe et ça renvoie le message aux filles qu'elles sont moins concernées par les choses qui ont attrait au corps, et puis aux garçons que par exemple c'est plus compliqué de parler de ses émotions ou des choses comme ça.
Complètement. Et puis moi, je pense que on est modélisante, et que moi, je sais que j'ai pas grandi avec des modèles de butch ou de femmes différentes, des stéréotypes, voilà, dans mon village. Et je pense que c'est assez important. Et on me l'a renvoyé aussi, des gamines, voilà, qui sortaient des stéréotypes et qui pouvaient s'identifier à moi ou à d'autres personnes. Et moi, je sais que c'est important, ça, en fait.
Et si on regarde un peu, là, par exemple, les ABCD de l'égalité, puis le mariage pour tous, c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et on a quand même la sensation qu'il y a des choses qui ont bougé, qui ont évolué. On est à l'ère post-MeToo, on parle de consentement, on parle de féminicide, on parle d'égalité dans quelque chose de plus radical qu'avant. Est-ce que dans les pratiques de classe, tu vois des modifications? Tu vois que les enfants ont intégré des choses?
Il y a plusieurs choses. Donc, comme je disais, au niveau des ados, parce que souvent, on s'adresse beaucoup plus collège-lycée sur l'égalité filles-garçons quand même. Donc, eux, ils ont intégré un peu le discours officiel, voilà, qu'ils peuvent ressortir et tout ça. À la fois, il y a aussi beaucoup de filles et quelques garçons qui ont pu s'emparer du thème et donc se libérer et grandir autrement. Mais il y a aussi quand même des dérives masculines. Enfin, il y a plein de choses. Et puis si on prend juste les manuels scolaires, par exemple, rien n'a changé ou si peu. Enfin, ouais, il y a peut-être un manuel à la marge en SVT qui a réussi à te mettre une photo du clito. En 2020, enfin, on en est là quand même, tu vois. Et la plupart des enseignants utilisent des manuels, donc déjà cette critique-là, elle est hyper importante. Ensuite, dans les pratiques ou dans l'orientation, tu vois, par exemple, la plupart des profs de sport, c'est encore des mecs, donc qui ont une vision. Et je vois les enseignants, en fait, comme on a peu de formation, finalement, on enseigne comme nous, on a été enseignés. Et donc, il y a un truc qui est vraiment à l'ancienne et qui bouge pas trop. Et par exemple, j'ai plein de collègues femmes en primaire qui veulent pas ou peuvent pas forcément enseigner le sport parce qu'on leur a pas appris. Et du coup, moi, je fais beaucoup ça. Donc, je propose à une collègue de faire sport avec moi. Du coup, moi, je lui apprends des trucs sur comment donner des séances de sport un peu chouettes et tout. Et voilà, donc c'est un peu bricolage et tout ça. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de formation, la formation sur le genre, elle devrait être obligatoire pour tous les enseignants. C'était le cas en Suisse francophone, par exemple, ou au Québec, ou dans d'autres endroits. Et tant qu'il n'y a pas ça, je veux dire, le militantisme ne suffira pas à changer la société dans une perspective féministe.
Même si les enseignantes sont sensibilisées et celles qui le sont essayent de faire des choses de manière proactive, tant qu'il n'y a pas de vraie volonté, et là pour le coup au niveau institutionnel, de donner des moyens et des financements pour qu'il y ait de la formation de qualité et non pas 2 heures à la marge dans un amphi de 300 personnes par exemple, de vraiment travailler sur les stéréotypes qu'on véhicule, sur avoir des pratiques de classe égalitaires, effectivement... ça a du mal à changer, quoi. Et c'est pour ça que votre livre, donc je rappelle le titre, Entrée en pédagogie féministe, que tu as coécrit avec Véronique Decker, l'ancienne directrice dans l'école où tu étais, s'adresse, qui a finalement un mi-chemin entre le récit et le manuel, on pourrait dire.
Ouais, il y a des pistes et des expériences que nous on a menées, que peut-être vous pouvez aussi, voilà, essayer d'arranger à votre sauce. Enfin voilà, ça peut vous inspirer pour des actions concrètes. C'était l'idée, en tout cas vraiment. La première lettre, c'est audace, et l'idée, c'est comment donner de l'audace aux gamins et surtout aux gamines qui en ont peu. Donc tu parlais tout à l'heure de l'estime de soi. Voilà, on sait que c'est la clé aujourd'hui pour trouver sa place et réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Donc beaucoup travailler sur ça avec le théâtre, avec la boxe, avec plein de choses comme ça. Et voilà, c'est un travail au quotidien. Et ce qu'on disait, nous, c'est que c'est difficile de le faire sans les parents. Donc on parle aussi beaucoup de coéducation. Et pour moi, tous les gens qui sont autour, quoi, acteurs, actrices, s'il y a trop de dissonance, tu vois, ça marche pas non plus. Donc le problème d'injonction contradictoire, voilà, de conflit de loyauté pour beaucoup aussi. En fait, moi, je remarque que pour aller vite, quoi, souvent les parents de classe moyenne, ils me disent « Ah ouais, j'ai plus envie de mettre mes enfants à l'école parce que l'école les regenre, enfin va les genrer, alors que moi, j'essaye de déconstruire avec elles le genre. » Et en quartier populaire, c'est un petit peu l'inverse, quoi. Les profs disent « Ouais, mais ça sert à rien puisque dans sa famille, ça se passe comme ça. » Donc voilà, en fait... Déjà, là, il y a vraiment une clé, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive à communiquer, à travailler ensemble. Et ça, rien ne le favorise pour l'instant, quoi. C'est un peu la guerre, et ça, je trouve, c'est un gros frein aussi à l'émancipation.
Un levier important, le travail entre l'école et la famille, communiquer sur les activités qui sont faites, et à l'inverse, comment ça se passe dans les familles pour que l'enfant ne soit pas valdingué comme ça, avec des discours, comme tu disais, contradictoires. Et puis, on en parlait au tout début de cette interview sur les rencontres de pédagogie. C'est aussi la possibilité pour que les professionnels, alors que ce soit de l'enseignement, mais aussi de l'éducation populaire, hein, les animateurs, animatrices, voilà, tous les professionnels de l'éducation puissent se former, s'interformer. C'est des rencontres qui sont autogérées, qui l'étaient, parce que la dernière a eu lieu en 2019 à Saint-Julien-Molin-Molette. En 2018, d'ailleurs, c'était proche d'ici, c'était dans les Chambarans, près de Roibon. Et puis peut-être que d'autres verront le jour. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont envie, en tout cas qui ont besoin, puisque la formation n'existe pas, de se former avec sur ces questions-là avec les autres collègues. Voilà, donc des lieux de co-formation. On espère que peut-être il y a des pistes pour que ça ait lieu à nouveau.
Peut-être aux 1000 vaches, donc chez Véronique Decker, la prochaine.
La prochaine. En tout cas, on tiendra les auditeurs et auditrices informés. Si tout ça vous intéresse, eh ben, vous pouvez effectivement consulter cet ouvrage « Entrée en pédagogie féministe » qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci Audrey Chenu d'être venue nous parler de pédagogie féministe ce matin.
Merci à vous.
Et puis longue vie aux pratiques pédagogiques.